Je suis venu à l'écologie par la lutte antinucléaire dans les années 70, c'est-à-dire que l'après 68 a été très signifiant pour la montée d'un mouvement écologiste en France. Se rappeler quand même qu'en 68, il y avait la remise en cause de la société de consommation et puis aussi la remise en cause des appareils politiques centralisés et une dissociation entre la militance de terrain et puis la représentation qui pouvait en être faite au niveau politique.
Didier Anger, figure emblématique de la lutte antinucléaire, cofondateur des Verts dont il a été porte-parole, il est l'un des trois premiers élus régionaux verts et a également été député européen.
Bon, donc, moi je suis venu à la lutte antinucléaire en 72. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est un peu la même chose au Bugey, à Fessenheim. C'est à partir du moment où le programme nucléaire s'est développé, 73-74. Et j'étais plutôt un militant syndicaliste, radical, à l'époque, à l'intérieur d'une tendance qui s'appelait l'école émancipée, qui est aujourd'hui éclatée, comme l'est le syndicalisme enseignant. Bon, donc, je m'étais mobilisé après 70 sur les questions de répression syndicale et je suis venu à la lutte antinucléaire par l'aspect policier du nucléaire et non pas, comme beaucoup, sur la question environnementale ou sanitaire. Donc un parcours un petit peu atypique. Mais si la politique m'intéressait au sens large du terme, je n'avais pas du tout de volonté politicienne. Hein. Je n'avais jamais appartenu à un parti politique, même si j'avais appartenu à des cénacles un peu de discussion, de débat, de formation. Ma formation première, c'est socialisme ou barbarie, avec des gens comme Castoriadis, Lefort, des gens un petit peu connus aujourd'hui, même si certains sont décédés, bon, qui en gros dénonçaient et le capitalisme d'État de l'Est et le capitalisme privé de l'Ouest, qui condamnait la bombe russe comme la bombe américaine ou la bombe française. Je viens à la lutte antinucléaire sur ces bases-là. Il n'y a pas de génération spontanée de ma part. Ma première apparition en politique, c'est 78, avec Écologie 78, et dans la circonscription de Valogne, qui est concernée fortement par le nucléaire, l'usine de Lag, de retraitement de Lag, qui existait déjà, plus petit qu'aujourd'hui, également le projet de centrale nucléaire à l'époque, qui commençait. Le projet de couloir de ligne, très haute tension pour sortir l'électricité vers la région parisienne ou vers la Bretagne. Tout cela reposait quand même sur une militance assez forte. Et c'est sans doute ce qui explique que j'ai fait le meilleur score d'écologie 78 à l'époque, 12,68%. Et en 79, j'ai remis ça avec Solange Fernex aux élections européennes, la première fois que des écologistes sont apparus, aux premières élections européennes. On avait fait autour de 4,40 ou choses comme ça, ce qui n'était pas si mal sans véritable appareil politique. J'étais deux ou troisième et Solange était première de liste à Europe Écologie. Mais à chaque fois, on dissolvait l'organisation. C'était les vieux principes libertaires. Il fallait absolument pas maintenir une structure permanente car elle risquait de se bureaucratiser et de ne plus correspondre aux besoins des militants. C'était la théorie à l'époque, avec un inconvénient majeur, c'est qu'une fois qu'on avait disparu, c'est quand même que les autres groupes politiques ne se préoccupaient plus après l'élection de ce que nous voulions, de ce que nous étions, etc. Ça cheminait un petit peu dans les têtes. Encore en 81, une opération ponctuelle, c'était Brice Lalonde qui se présentait pour les écologistes à l'élection présidentielle, et il y a eu, Brice Lalonde était le candidat, Solange, comme moi d'ailleurs, on n'était pas très chaud pour Brice Lalonde, on avait quelques réticences, on sentait des déviations possibles. Il y a eu des élections législatives par la suite, et ça a encore été ici que s'est fait le meilleur score au niveau national, même avant celui de Brice Lalonde, qui était quand même beaucoup plus connu nationalement du fait de sa candidature à la présidentielle. Et c'est seulement après la présidentielle de 81 que les différents mouvements qui se réclamaient de l'écologie politique ont essayé de se rassembler. Il y a eu une première réunion dans le sud de la France en 81, et puis ça a cheminé, mais il y avait principalement deux groupes. Un groupe qui était plus partidaire, surtout autour des Alsaciens et de quelques Lyonnais, et puis un groupe qui se revendiquait beaucoup plus des régions, qui était plus fédéraliste, dans lequel on retrouvait des gens comme Yves Cochet, comme Dominique Voynet, moi-même. Donc moi je me reconnaissais beaucoup plus comme fédéraliste que comme centraliste. Je suis toujours attaché à cette idée. Et donc selon la doctrine idéologique d'un certain philosophe de la région du Jura qui disait dans un débat avec Debré, plutôt la région et l'Europe que la nation. Hein. Bon, donc c'est la tentative donc des Verts partis écologistes, des Verts confédération écologiste de se rassembler courant 83. Donc j'ai fait partie avec Yves Cochet, avec Wächter de l'autre côté, avec Solange. Mais Solange et moi on se connaissait très bien, ça a sûrement facilité pas mal de choses à l'époque. Il y avait quand même quelques tensions. La fusion a abouti à Clichy en janvier, fin janvier 84. C'est à partir de ce moment-là que se sont créés les Verts, avec en tout petit sous-titre au-dessous, pour marquer à la fois l'origine historique, pour utiliser un grand terme, mais également sur le fait qu'on n'avait pas réellement tranché entre la structure parti et la structure fédérale, avec quand même une prédominance sur le fédéral, puisque le Conseil national était élu aux trois quarts dans les régions et seulement au quart au niveau national. C'était le symbole de cette semi-victoire des fédéralistes. Bon, donc, sur la lancée, on s'est présenté aux élections européennes, et aux élections européennes, on avait face à nous quand même une liste dite R, entente radicale écologiste. Cette liste Lalonde, avec Stirn et Dubin, à l'origine, elle nous avait été présentée comme une liste R entente radicale écologiste. À l'origine, ça devait être avec les deux forts, Edgar qui venait du centre droit et Maurice qui venait du centre gauche, tous les deux anciens amis de Mitterrand. C'était une opération mitterrandienne qui visait à constituer un centre, car Mitterrand savait déjà à l'époque que là il y aurait rupture avec le PC et il lui fallait trouver une alliance, une nouvelle alliance au centre. Brice Lalonde était venu à Clichy, n'était pas venu exactement à Clichy, il avait envoyé ses amis pour présenter sa candidature sur cette base-là. Et ça avait représenté un peu plus de 60 voix sur les plus de 600 présents à Clichy. Lalonde en clair nous demandait deux choses, d'abandonner la lutte antinucléaire, civile et militaire, qui était fondatrice dans l'écologie politique dans ces années-là, surtout que le PS avait abandonné ses promesses en 81 de réduction du programme nucléaire. Et puis, il nous demandait donc cette alliance au centre. Cela avait été massivement refusé, et lors de l'élection pour les têtes de liste aux élections européennes qui devaient se faire en juin 84, eh bien, c'est moi qui arrivais en tête, et Solange qui arrivait juste après, et donc Yves Cochet, etc., donc des gens qui étaient très marqués par la lutte antinucléaire et la lutte pour les énergies alternatives, ce qui était plus le cas de Yves Cochet à cette époque-là. Bon, donc le choix était clairement défini. C'est de là, d'ailleurs, je crois qu'il y a une chose quand même importante à l'époque, quand on se définit ni-ni, ça a été très mal compris par la suite. ni droite ni gauche. Pourquoi ni droite ni gauche? Je vous rappelle quand même que à cette époque-là, l'URSS existait, hein, qu'il y avait la bombe russe et la bombe américaine, que le monde était coupé en deux et qu'on n'avait pas du tout envie de s'insérer d'un côté ou de l'autre. Le ni droite ni gauche signifiait ni capitalisme d'État ni capitalisme privé, pour être très clair. Et c'était déjà contenu dans notre programme de 79, donc avant les Verts, aux Européennes. Avec Solange, on avait tenu à intégrer cette dimension-là et on avait évoqué le fait que pour exister politiquement, il ne suffisait pas d'exister à un moment donné de l'histoire du pays, mais qu'il fallait avoir un projet politique, une alternative. Et l'alternative devait prendre en compte pas seulement le travail, comme ça avait été le cas pour la gauche, depuis les anards et les marxistes de la fin du XIXe siècle, mais également la consommation ou l'usage, et la proximité ou non d'installations polluantes, etc. C'est-à-dire que faire en sorte qu'on passe de l'autogestion à ce qu'on appelait l'éco-gestion, c'est-à-dire faire en sorte que aussi bien les travailleurs, les consommateurs ou usagers et les voisins des unités de protection de production soient intégrés dans le processus de production, c'est-à-dire qu'on change les rapports sociaux entre les personnes. Alors, il se trouvait qu'à l'époque, la politique se déterminait beaucoup par rapport aux deux blocs. Il y avait à droite un alignement plus ou moins marqué vis-à-vis des États-Unis, et il y avait, avec cette particularité gaullienne, distanciée par rapport aux États-Unis, mais le modèle politique restait le même. Et puis, à gauche, il y avait le PC était encore très fort au début des années 80. Se rappeler qu'en 81, il faisait encore un peu plus de 15%, s'il avait fait 30% au sortir de la guerre. Et puis, le PS se réclamait encore des nationalisations. Notre existence politique, on estimait nécessaire de la qualifié comme ni droite ni gauche, mais ni droite ni gauche, ça n'était pas seulement sur le plan politicien, c'était aussi sur le plan global du projet de société. Hein. Ça, on l'a quand même beaucoup oublié. Wächter l'a beaucoup oublié après. Et donc, le ni droite ni gauche ne pouvait pas s'interpréter en 84 comme allant au centre, puisque nous avions refusé l'alliance proposée par Lalonde, une alliance qu'on avait qualifiée de LSD, puisque ça avait tourné un peu en nœud de boudin, et les deux forts qui sentaient mal l'affaire, c'était Desistés pour Stirn et Dubin, Lalonde L, Stirn S, Dubin D. D'ailleurs, ils ont été bien récompensés par la suite, parce que même avec moins de voix que nous aux élections de 84, ils ont eu trois ministres, les trois personnes en question. Jusqu'en 86, on peut dire que la ligne était plutôt celle-ci, et le ni droite ni gauche n'est devenu vraiment évident comme ne se définissant que sur le plan politicien à partir du fait que Wächter et les Alsaciens sont devenus majoritaires au sein des Verts. Comment le sont-ils devenus? Tout simplement parce que aux élections de 86, nous n'avons eu que trois élus. Les espoirs étaient peut-être démesurés pour un groupe politique qui venait de se fonder depuis deux ans. Beaucoup de copains avaient frôlé les 5%, mais le barrage était tel que c'était considéré comme un échec. Il fallait bien trouver des boucs émissaires à cet échec. C'était l'orientation, le placement politique choisi. Donc, on voulait encore bien de moi comme porte-parole, mais c'est moi qui ai demandé à ne plus l'être. Il y avait une majorité qui était pour le nini au sens politicien du terme, cette majorité devait appliquer sa politique. Je n'ai pas accepté d'être porte-parole avec les trois autres Alsaciens. On a assisté d'ailleurs après à des choses extrêmement étonnantes parce que Nini, pour Wächter, ça aussi on l'a un peu oublié, c'était quand même se placer au centre. Je rappelle qu'en 84, il n'était pas sur la liste pour les européennes. Il était venu me trouver pour me dire « moi je préfère l'alliance avec Lalonde ». C'est-à-dire que Wächter fondamentalement était un démocrétien comme ça se fait beaucoup en Alsace, même s'il avait deux particularités, il avait été objecteur de conscience, ce qui n'était pas typique de la démocratie chrétienne au sens politique, et il était également défenseur de l'environnement. On a beaucoup parlé de sa défense des castors quand il était scout, etc. Bon, il était un peu atypique, mais en même temps très marqué par la démocratie chrétienne alsacienne. Bon, et autour de lui, on trouvait des gens qui étaient plutôt ni gauche ni gauche, c'était assez étonnant. Lui, je pense qu'il était sincèrement ni droite ni gauche, mais il y avait à côté de lui des gens qui étaient ultra-gauche, qui étaient sortis de la LCR, passés par l'alternative libertaire, et qui considéraient le PS comme l'ennemi principal. Il faut dire qu'en 85, le PS avait fait fort dans l'affaire d'Auckland contre Greenpeace. Il avait apporté de l'eau au moulin quand même à ceux qui pensaient ça. Et puis, on avait des gens qui étaient proches de Pasqua dans les Hauts-de-Seine, pas forcément des fascistes, comme certains l'ont prétendu à l'époque, mais quand même des gens qui étaient plutôt marqués bien à droite, quoi, et bien autoritaires. Bon, moi j'ai participé à l'époque aux travaux internes des Verts. J'animais avec Marie-Christine Aulas, avec Emmanuel Antoine, ce qui nous faisait appeler les 3A, un groupe qui s'appelait les Verts divers ouverts, c'est-à-dire on se voulait ouvert sur un certain nombre de personnes ou de petits groupes. C'était l'époque où le PSU se dissolvait. Par vagues successives, le PSU avait gagné le PS, où se retrouvait un peu en panne d'organisation. Donc certains sont rentrés à l'époque. J'étais vraiment favorable parce que c'était des militants qui existaient sur le terrain. Ils existaient en Bretagne, ils existaient au Larzac, ils existaient dans un certain nombre de régions. Et puis un certain nombre d'alternatives dont certains venaient des Mao, qui ne se reconnaissaient plus nulle part à l'époque, mais qui se considéraient toujours comme alternatifs et critiques par rapport à la société ambiante. Donc ça pouvait être intéressant de récupérer un certain nombre de personnes comme ça parce qu'ils existaient réellement sur le terrain. Bon, la suite des Verts a fait qu'il y a eu un affrontement entre le groupe Wächter et le groupe Voynet, et ça aboutit à la rupture, hein, à la cassure. Aujourd'hui, je ne suis plus dans l'histoire des Verts, mais j'ai beaucoup participé à la première histoire des Verts. Et aujourd'hui, j'assume la responsabilité que j'ai eue à cette époque-là, et j'assume aussi mon histoire personnelle.